On y va pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu goûtes ça?
Aujourd'hui, on va la faire à la bordelaise.
Au bord de la Garonne se dresse le nouvel emblème culturel et touristique de la ville de Bordeaux.
Cette cité est unique en son genre.
La cité du vin, tout en rondeur et en courbure, évoque l'élément liquide, la fluidité.
Elle accueille aussi, et c'est son esprit, tous les vins de France, mais aussi tous les vins du monde.
Bordeaux, ses monuments, son vin et sa célèbre pâtisserie.
Les cannelés. Bordeaux, c'est les cannelés.
Croustillant à souhait.
Le cannelé, un petit bout de patrimoine, défendu bec et ongle par certains grands pâtissiers.
Aujourd'hui, on va la faire à la bordelaise.
C'est bien à la bordelaise qu'on vous mitonne cette émission. Et pour cuisiner à la bordelaise, rien de mieux que d'être à Bordeaux. Bonjour Bordeaux. Merci à toutes et tous. Nous sommes en public et en direct depuis le Palais de la Bourse, juste au bord de la Garonne, en plein centre-ville. Palais de la Bourse, où se déroule depuis deux jours Bordeaux So Good. C'est un festival qui enflamme les appétits bordelais ce week-end et jusqu'à ce soir. Il y a de la photographie culinaire, des cours de cuisine, des démonstrations, des dîners dans toute la ville. Et ce grand raout très efficace et très dynamique se fait à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux-Gironde. C'est un sacré événement où il y en a vraiment pour tous les goûts. Et Bordeaux So Good, eh bien c'est l'occasion d'évoquer le formidable réveil culinaire et viticole d'une ville qu'on a un peu pris pendant longtemps, il faut bien le dire, pour la belle endormie de la gastronomie. Non, je me fais pas huer, tout va bien, parfait. Ben justement, pour évoquer ce sursaut viticole et gastronomique, trois invités pour en parler avec nous. D'abord, un jeune chef qui vous veut du bien, même si son restaurant s'appelle Garo Papille. C'est Tanguy Lavial, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Phénomène que ce bistrot gastronomique dont vous nous rappelez, Tanguy, l'adresse ?
62 rue Abbé de l'Épée, en plein centre de Bordeaux.
Et vous nous avez préparé de belles recettes avec votre... c'est votre second ?
C'est mon second, on vous a préparé trois bouchées complètement différentes.
Bonjour Geoffrey, c'est ça ?
Geoffrey, absolument.
C'est Geoffrey, on lui rend hommage, il a fait un sacré boulot, il y a des bouchées qui vont circuler dans les travées du Palais de la Bourse. Ensuite, une observatrice aiguisée de la gastronomie locale, rédactrice en chef des magazines de Sud-Ouest, auteure de livres de cuisine. On se connaît bien, elle a très bonne réputation dans la région et au-delà. C'est Marie-Luce Ribaud, bonjour.
Bonjour.
Marie-Luce est arrivée aussi avec deux sacrées victuailles qui illustrent là encore cette formidable énergie bordelaise en termes de gastronomie et de terroir, on va voir ça. Et puis enfin, on a avec nous une grande dame du vin bordelais, propriétaire de Château Chauvin, qui est un grand cru de Saint-Émilion, première femme à la tête de l'Union des grands crus de Bordeaux, présidente également de la Cité du vin, oulala, non, je t'ai plus, c'est Sylvie Casse, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Et puis mes chroniqueurs évidemment. Elle a entamé une cure de bien-être il y a quelques mois dans son assiette et entend bien la poursuivre à Bordeaux. C'est Elvira Masson, bonjour.
Bonjour à tous.
Au menu ?
Au menu, effectivement, une quête de bien-être ou plutôt de sens écologique, mais à la sauce québécoise. Ah, donc oui. On trouve vraiment de tout à Bordeaux.
Vous en avez dégoté une belle. Hein. Ouais. Vous allez nous raconter ça tout à l'heure avec là aussi preuve à l'appui. Et puis notre chroniqueur vin qui a entamé une cure de raisin et qui entend bien la poursuivre à Bordeaux.
Bonjour.
C'est Antoine Gerbel, bonjour. Au programme, dans nos verres, Antoine.
Eh ben, cette semaine, il y avait le Beaujolais, on sait maintenant qu'il redevient bon. Et ces derniers temps, il y avait le Bordeaux bashing, aujourd'hui, il faut arrêter.
Ben, faut arrêter, on va quand même poser des questions sur le Bordeaux bashing. Nous, ça nous interroge en tant que, je suis pas forcément parisien, mais en tant que parisien d'adoption on vient à Bordeaux et on a envie de se poser des questions qu'on vous posera bien sûr Sylvie Caz. Laurent Thomas réalise cette émission avec les moyens de France Bleu Gironde. On remercie Nadia Chougui qui est également du voyage et à la technique. Il y a Julien Collin. Toutes les infos, les recettes de nos invités, le podcast de l'émission sur franceinter.fr. À la page on va déguster, on sort sa fourchette et son tire-bouchon à Bordeaux.
Sur France Inter, avec François-Régis Guédry, on va déguster.
Trois invités autour du plateau dont on va déguster donc, installés dans le Palais de la Bourse, avec quand même, faut le préciser, une hauteur sous plafond assez vertigineuse. On va faire un petit tour de table pour commencer, s'il fallait donner aux nombreux auditeurs qui nous écoutent dans toute la France une seule raison gastronomique pour venir à Bordeaux, à part bien sûr le festival Bordeaux So Good dont c'est la 4e édition cette année. Vous diriez quoi? On commence avec Sylvie Caz.
Alors évidemment, c'est bien sûr la diversité de toutes ces formes de gastronomie que nous découvrons, mais surtout, si on veut parler d'un lieu, pour moi, ce sont les nouvelles halles de Bacalan, ouvertes depuis 10 jours seulement.
Qui est déjà allé aux nouvelles halles de Bacalan? Levez la main. Ah oui,
ils sont très nombreux, vous voyez.
Ils sont très nombreux, preuve du succès.
Grand succès, beaucoup de monde qui se précipite aux halles de Bacalan. C'est un lieu magique qui est en face de la Cité du Vin, c'est-à-dire au nord de la ville de Bordeaux. Dans le quartier de Bacalan, bien sûr. Et il y a 23 producteurs. C'est un marché, avant tout, où il y a 23 producteurs, des produits d'Aquitaine de la meilleure qualité. Alors, on a les huîtres, le foie gras, les jambons, le poisson, etc., etc. Et les légumes, bien sûr, et les fruits bio, évidemment. Et puis, c'est aussi un lieu de consommation. C'est-à-dire qu'il y a des tables, des manches debout, on échange, on partage. Il y a régulièrement de la musique, des bandas, c'est la fête.
C'est un peu les anglo-saxons pourraient appeler un food court, c'est-à-dire l'idée qu'on y fait ses courses, mais qu'on peut également s'attabler, grignoter quelque chose, jouer des coudes avec des gourmets en jouets.
Et on rit beaucoup, on s'amuse beaucoup, on échange beaucoup. Parce que...
Situez-nous les halles de Bacalan, s'il vous plaît, pour ceux qui
connaissent. Alors, les halles de Bacalan, en face de la Cité du Vin. Donc, dans ce quartier de Bacalan, vous savez qu'il y a l'histoire de Bordeaux, du port de Bordeaux, de l'héritage industriel de Bordeaux, qui a été complètement rénové avec 5000 nouveaux logements, enfin avec tout un tas d'animations formidables, le futur musée de la mer, etc.
Rendez-vous est pris pour aller aux halles de Bacalan. Je me tourne à ma droite vers Marie-Luce Ribaud, grande experte gastronomique, qui vit à Bordeaux et qui s'intéresse à toute la gastronomie de la région. Vous validez le fait que les halles de Bacalan...
C'est formidable.
C'est formidable.
Oui.
D'accord.
C'est un peu Italie, c'est tout cet esprit. C'est vraiment très, très chouette, oui.
Et vous avez, vous, un coup de cœur qui justifierait un petit voyage à Bordeaux?
Oui, moi, je vous propose d'aller musarder dans une rue qui s'appelle la rue de la Vieille Tour, qui est au centre de Bordeaux.
Ça vous dit quelque chose, cher public?
Oui. Voilà.
Ah oui, on a des gourmets dans la salle.
Et cette rue, de façon, une génération spontanée, est devenue la rue gourmande de Bordeaux. Rien n'était prévu pour ça. Et puis, il y a deux chocolatiers, un authentique, je dirais, qui est une grande maison bordelaise, la maison d'Haricot, qui a ouvert de ce côté-ci de la rue. Une jeune femme formidable, Asna, qui est aussi chocolatière, qui a ouvert. Un torréfacteur formidable, une épicerie scandinave, un restaurant.
Ça va plaire à Elvira Masson.
Je crois.
Ça s'appelle le dimanche ou pas? Non.
Ça s'appelle Mona. Voilà. Et donc, il y a aussi un petit resto qui fait partie des restos les plus appréciés des Bordelais depuis des années, qui s'appelle le Scopitone. Et donc, cette petite rue qui ne demandait rien à personne est devenue un formidable lieu de gourmandise.
Vous nous rappelez le nom de cette rue, Marie-Luce
Ribaud? Rue de la Vieille Tour.
Rue de la Vieille Tour. On va y aller, évidemment. On est à Bordeaux depuis hier. On en a déjà pas mal profité. Je me tourne vers Tanguy Lavial, au fourneau du bistrot à succès. On peut vraiment le dire. Hein. C'est quand même un bistrot qui a imprimé la vie gastronomique de Bordeaux, Gare aux Papilles. Si vous aviez un coup de cœur à conseiller à nos auditeurs?
Alors un coup de cœur, parce que effectivement la gastronomie bordelaise suit un peu l'évolution et le mouvement de la ville. La gastronomie est en pleine effervescence, avec l'arrivée de grands talents, de jeunes chefs pleins de talents, qui ont une cuisine juste et inventive.
Oui.
Parce que la gastronomie bordelaise est décidément tourné vers le produit de qualité, travailler de manière simple et gourmande.
D'accord.
Je pourrais citer le restaurant qui s'appelle l'Atelier d'Effort de Roman Vinicky.
Oh bah, c'est là où on s'est attablé hier soir.
Mais
curieux. C'est vraiment un hasard, ça. L'Atelier d'Effort. Non, mais quelle expérience. Franchement, dites-en un mot.
Bah voilà, on cuisine sans prétention. On sait ce qu'on fait. On cuisine, en fait, tout simplement. C'est joli, c'est maîtrisé.
C'est métissé aussi.
C'est métissé. Bah voilà, en fait, c'est aussi la... C'est aussi ce qui se passe à Bordeaux. Bordeaux s'ouvre aux expériences culinaires, à la diversité.
Alors, on est dans le quartier Saint-Michel, dans la rue des Forts, précisément.
Absolument.
Il faut préciser que le chef qui est au fourneau, dans un petit endroit très sympathique, façon un peu loft, relativement modeste, il y a un bon rapport qualité-prix. Il a travaillé à vos côtés pendant quelques mois, il s'appelle Roman.
Absolument.
Et je dois dire que
On a fait une belle expérience avec toute l'équipe, Nadia, Laurent Thomas à la réalisation. On est tous partis là-bas en bande. Elvira.
Moi, je me suis régalée avec des falafels.
Bah, ça tient, voilà.
Évidemment. Hein.
Vous savez qu'elle a une passion pois chiche, malgré ses origines suédoises. Et ben, elle s'est forcément jetée sur les falafels. Comment ils étaient ?
Mais ils étaient parfaits, croquants, croustillants, gourmands, avec une petite sauce tahine, sésame, citron. Bien monté, sauce saté, donc quand je disais métissage,
c'est
à la fois local et voyageur.
Exactement.
C'était un régal.
Avec des touches voyageuses, merci beaucoup pour le conseil Tanguy Lavial, c'est vrai que c'est une très belle expérience. Et puis ensuite, on a poursuivi la soirée avec notre ami Antoine Gerbel, dans un établissement un peu spécialisé. Vous nous en dites un mot, Antoine, ça s'appelait Soif.
Bah, rien que le nom, bien évidemment, je sais mon tropisme absolu. Soif, c'est un très joli bar à vin qui vient d'ouvrir, et c'est aussi l'annonce que Bordeaux s'ouvre à autre chose, et c'est pas du bashing, à un peu autre chose que les vins de Bordeaux. Longtemps, Bordeaux était un peu enfermé dans son style, ce qui est très bien, mais bien évidemment qu'on n'est jamais aussi bon qu'en se comparant aux autres. Et voilà un bistrot tendance nature, il faut le dire, mais les meilleurs. Vraiment une carte des vins très très bien choisie, et on a bu du Bordeaux, on a bu un très grand, on peut le citer,
oui.
On a bu un Ponte Canet 88 hier soir, vraiment un château mythique et un prix généralement inaccessible. Je suis incapable aujourd'hui de me payer cette bouteille, et ce soir-là, j'ai pu l'offrir à mes amis.
Oui, c'est vrai. Tu as cassé, non, même pas cassé ta tirelire, parce que c'était tout à fait honnête. On donnera pas les prix, etc.
Si, il faut dire à France Inter que j'ai cassé ma tirelire.
Oui, oui, ils vont être contents, effectivement, à France Inter. En tout cas, c'est Soif. Et c'est rue de Cancéra, hein.
Rue du Cancéra.
Rue du Cancéra.
Et je tiens quand même à dire que malgré le fait que ce soit un bar à vin, comme vous l'avez dit, c'est aussi un endroit où on mange très très bien.
Absolument. Ouais. Assiette très ciselée, très belle
bouchée. On a mangé une fraise de veau qui est quand même suffisamment rare.
Ça y est, ça s'emballe.
On ne goûte jamais de fraise de veau nulle part, pratiquement.
Extraordinaire.
Ouais. Extraordinaire.
Vraiment extraordinaire. Comme j'en ai jamais mangé à Paris. C'est dit, ni à Lyon, ma ville natale, c'est dit aussi. On a également un autre coup de cœur, j'en parlais, je l'ai dit plusieurs fois, c'est certainement l'une des adresses les plus excitantes de la ville. Gare aux Papilles, un bistrot gastronomique dont la devise est « vin d'auteur et cuisine à la hauteur ». Ce petit jeu de mots me plaît déjà, mais racontez-nous un peu ce motto, ce slogan.
En fait, tout simplement, et c'est un slogan qu'on a choisi avec Gaël, mon associé, en toute modestie, sans se prendre la tête, parce que voilà, on voulait ouvrir un établissement, un restaurant avec un grand air, où les gens ont de la place, où les gens ont du temps pour manger, où on cuisine là aussi, on prend le temps de faire les choses. Et on s'est dit qu'il fallait s'assumer et dire qu'on allait essayer de faire une belle cuisine avec des jolis vins.
Assez parlé, vous allez carrément nous montrer dans un instant la preuve de votre talent. Ce que je vous propose, c'est de faire circuler dans le public une petite recette que nous a préparée. On dit pas grand-chose sur sa composition, comme ça on va le faire à l'aveugle. Et s'il y a des gens joueurs dans le public, eh ben vous allez deviner ce que c'est, tout simplement. Quelqu'un prend la parole, on lui la donne.
Et il gagne quoi ?
Son poids, un abonnement pour un dîner par semaine à Gare aux Papilles jusqu'en septembre 2022. Voilà, ça vous va ou pas? Tout le monde est très content. On se retrouve évidemment juste après un petit choix musical de notre programmateur Djoubaka, Juniore, Extra Lucide.
Tu t'en moques et tout le monde s'en fout. En air de guitare.
Nous sommes en direct du Palais de la Bourse où se déroule le festival Bordeaux So Good. Avec nos invités, Sylvie Casse, qu'on va entendre dans un instant au sujet de la Cité du Vin. Vous avez énormément contribué à l'émergence de ce projet très ambitieux à Bordeaux. Tanguy Lavial, au fourneau de Garo Papy, Marie-Luce Ribaud, rédactrice en chef de Sud-Ouest Gourmand. Alors, on a distribué dans le public une recette signée Tanguy Lavial. On la joue un peu à l'aveugle parce qu'on est joueur. Dans l'émission, on va déguster. Ah tiens, on a un volontaire, un cobaye consentant qui s'est prêté au jeu. D'abord, est-ce que vous avez aimé ?
Oui, c'est très bon.
C'est très bon. Est-ce que vous auriez une petite idée de ce qu'il y avait dans cette petite écuelle ?
Alors, oui, bon, déjà, il y avait un petit bout de saumon très, très goûtu.
Oui.
L'oignon avait l'air mariné dans du vinaigre ou quelque chose d'acide.
Ouais, un peu pickle, c'est ça que vous voulez dire ?
Ouais, une sorte de pickle d'oignon, voilà.
Bien joué.
Et la mousse, il m'a fallu un moment, ça ressemble à de la pomme.
Oui.
Voilà, donc j'en suis là, avec une mousse de pomme.
Votre prénom ?
Romain.
Eh ben bravo Romain, c'est pas du tout ça. Non, vous avez, on peut dire qu'il a, il a deux points sur trois.
C'est pas mal.
Il y a juste, un petit, une petite ambivalence sur l'élément principal de la recette.
Alors effectivement, c'est pas du saumon, c'est une truite.
Oui.
Mais c'est intéressant, c'est évidemment la même famille.
Ouais, c'est une même c'est la même famille et puis on peut les préparer différemment. Enfin, on peut les préparer avec les mêmes recettes. Là, en l'occurrence, elles sont préparées un peu comme du Gravlax, marinées dans du sel et du sucre avec beaucoup de poivre. Et ensuite, on les conserve au frigo avec de l'huile d'olive et on laisse le sel bien rentrer à l'intérieur des chairs.
Pendant combien de temps la marinade ?
On peut laisser 48 heures, 3 jours, 4 jours.
Il faut le retourner sans cesse.
Ouais, faut le retourner, faut le lustrer avec l'huile d'olive, il faut le voilà.
Les proportions pour effectivement un Gravlax, on sait que c'est cette prépa.
C'est ma fête.
Et c'est votre fête, Elvira. C'est évidemment une préparation sel, sucre. C'est dans quelle proportion justement ces ingrédients à peu près ?
C'est 300-100. 300 sel et 100 sucre.
300 grammes de sel pour 100 grammes de sucre à peu près, on est d'accord. Effectivement, ça marine à sec et ça fait un effet fondant.
Ouais, voilà, ça resserre les chairs, ça donne de la structure, ça donne et puis ça donne un côté vraiment enrobant, long, avec une jolie longueur.
C'est ça. Truite de Banca, il faut préciser qu'il s'agit d'un produit régional. On voilà. Est dans le Pays Basque, on est un peu au sud, mais ouais. On est quand même dans la Nouvelle-Aquitaine. Vallée des Aldudes.
Absolument.
Une truite très bien élevée, dans des Absolument. Conditions durables.
Absolument. Et dans un lieu magnifique. C'est aussi pour ça que cette truite a cette texture-là, cette consistance-là, cette couleur-là. C'est qu'en fait, c'est une truite heureuse, on peut
c'est
dire.
Ça.
Ça se sent.
C'est une truite heureuse et elle est très heureuse dans votre assiette. Parlons.
Tendre.
Comment ?
Et tendre. Elle était très tendre.
Elle était très tendre. Eh bien, Sylvie Casse, vous avez la parole, justement. Vous prenez la parole et vous la gardez, puisque vous êtes à l'origine. Vous êtes une grande figure du vignoble bordelais. On l'a dit, vous êtes à la tête du château Chauvin. C'est un grand cru classé à Saint-Émilion. Vous êtes également, tiens, propriétaire du restaurant Le Chapon Fin.
Oui,
à Bordeaux.
Tout à fait, oui.
Et vous êtes...
Le plus ancien restaurant de Bordeaux.
Le plus ancien restaurant de Bordeaux.
Oui, tout à fait.
Quelle date, vous savez ?
1825.
Vous dites, Marius
Le premier 3 étoiles de Bordeaux, et oui. Le seul d'ailleurs.
Il n'en a plus aujourd'hui.
Il n'en a plus, mais il l'eut à l'époque.
Ça reviendra peut-être à jour. Vous êtes la première femme à la tête de l'Union des Grands Crus de Bordeaux et vous êtes également présidente de la Fondation pour la Culture et les Civilisations du Vin. Qui a donné naissance, cette fondation, à la Cité du Vin en 2015 ?
Oui, tout à fait, en 2016.
En 2016,
le 1er juin 2016 exactement.
D'accord.
Et la Fondation en fait exploite la Cité du Vin.
Racontez-nous en quoi consiste cette Cité du Vin.
Alors aujourd'hui, c'est une sorte de musée du vin. En français, musée, ça fait tout de suite toile d'araignée. On a l'impression qu'on n'a que des collections. Il n'y a pas de collection. En fait, c'est un lieu de vie autour du vin
oui. Et
autour de la culture du vin. Et donc pour cela, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il fallait qu'on parle de tous les vins du monde pour prouver justement que cette culture et ce patrimoine sont universels. Et nous, notre souhait, notre mission, c'est de le valoriser et de le transmettre.
Ce n'est donc pas Bordeaux centré ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Bordeaux fait partie, bien sûr, des lieux que l'on cite et que l'on montre. Mais bien entendu, au départ, c'était le projet. Le projet de départ qu'Alain Juppé voulait, sa vision de départ, c'était de proposer aux visiteurs de Bordeaux un lieu pour pouvoir découvrir toutes les régions de Bordeaux, de comprendre les régions de Bordeaux pour ensuite aller dans le vignoble. Et puis petit à petit, au fil de nos discussions, on s'est aperçu qu'il fallait un projet plus ambitieux, plus contemporain et surtout plus universel. est beaucoup plus ouvert sur le reste du monde. Bordeaux, vous savez, a été le premier port de France pendant très longtemps. Il y a eu beaucoup, nous avons beaucoup d'influence, on l'a dit tout à l'heure, dans la cuisine aujourd'hui et même depuis toujours, nous recevons beaucoup de gens du monde entier. Et aujourd'hui, de la même façon, il fallait que cette cité du vin reflète cette diversité.
Je crois que le succès est au rendez-vous en termes de fréquentation.
Alors, au-delà de nos espérances, puisque nous avons reçu 425 000 visiteurs depuis la première année, à partir du 1er juin jusqu'au 1er juin 2017, et nous sommes en augmentation de cette fréquentation. Nous recevons beaucoup de gens du monde entier, beaucoup de touristes à Bordeaux. Vous savez que Bordeaux est le plus grand ensemble urbain classé au patrimoine mondial et que grâce à ça, nous accueillons énormément de gens qui viennent du monde entier.
Oui. Comment il faut imaginer... Je me tourne peut-être vers Marie-Luce Ribaud, j'imagine que vous connaissez cet espace en tant que journaliste gastronomique. Comment il faut imaginer pour les gens qui nous écoutent et qui auraient envie d'aller faire un tour à la Cité du Vin, une visite là-bas? C'est pas vraiment un musée, c'est un parcours pédagogique.
C'est un parcours, je dirais ludique plutôt. Voilà, on est dans un univers où on peut à la fois... traverser le lieu en s'amusant, on peut aussi le passer en se cultivant. Il y a des choix à faire... La première partie, notamment sur toutes les civilisations du vin, elle est formidable. Mmh. Et c'est pour ça que, quand j'entends Bordeaux bashing, Bordeaux lance un énorme message à travers la Cité du Vin en disant, mais non, nous ne sommes pas le centre du monde. Mais par contre, on s'ouvre aux autres. Et je trouve que c'est tout à fait ce qui reflète la ville de Bordeaux aujourd'hui. Ce message très, très fort d'aller vers l'autre. Cet endroit, c'est un endroit effectivement assez, assez formidable. Ce qu'il a aussi besoin, c'est de vivre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse se renouveler régulièrement, ce qui est fait à travers des expositions formidables de peinture, notamment autour des régions viticoles du monde. Moi, je trouve que c'est une grande réussite, vraiment. Et l'architecture est somptueuse.
Alors, on a deux réactions autour de ce plateau. Il y a Elvira Masson et ensuite Antoine Gerbel. On commence avec Elvira.
Moi, j'étais un tout petit peu déroutée en parcourant les pages du site de la Cité du Vin de voir la politique tarifaire que je trouvais très élevée. Mais il y a sûrement une explication. D'abord, elle est hyper compliquée. Il y a des tonnes d'entrées différentes. J'ai l'impression qu'il y a 20 tarifs différents.
Qu'est-ce que vous entendez
par l'entrée principale,
tarif...
Il me semble que c'était 20 euros l'entrée par adulte.
Ah, quand même.
Je trouve ça.
Oui, alors
justifiez-vous, Sylvie Caz.
Oui, alors il y a aucun problème. Ce tarif de 20 euros a été en fait calqué par rapport à toutes les offres de ce type de site en France. Donc c'est un tarif qui est absolument normal. Et l'offre que nous proposons est exceptionnelle puisque vous avez, grâce à ces 20 euros, l'entrée au parcours principal dont vient de nous parler Marie-Luce avec ses 20 modules et interactifs, etc. Il y a minimum 2 heures de visite. Puis une dégustation au Belvédère. Vous avez une vue de Bordeaux à 360 degrés.
C'est vrai.
Et vous pouvez choisir parmi 20 vins différents, dont des vins du monde entier. Et puis vous avez aussi accès à l'exposition temporaire que nous faisons de terminer, qui est une exposition sur les vins de Géorgie. Puisque vous savez que la Géorgie, c'est le berceau de la viticulture. Le vin a été inventé en Géorgie il y a plus de 8000 ans.
Qui est allé dans le public à la Cité du Vin? Oh là là, toutes
tout
les
le
mains
monde.
Se lèvent. Qui est content? Un
pas
grand
tout
sourire.
À fait.
Oui, globalement, la Cité du Vin emporte l'adhésion dans notre public bordelais. Antoine Gerbel?
Oui, moi, ce que j'aime particulièrement, c'est que c'est une approche didactique. Moi, je conseille vraiment une visite à tous les gens qui commencent à s'intéresser au vin, donc aux jeunes particulièrement, aller faire un tour à la cité, même si c'est un peu cher, je suis d'accord.
On est d'accord avec Elvira, c'est quand même un peu élevé a priori comme ça au premier abord.
Parce qu'en plus, c'est entre guillemets un musée très numérique. Aujourd'hui, il y a des écrans partout, c'est tactile, on peut jouer avec, on rencontre des personnalités du vin, il y a des mises en 3D de personnages, donc voilà, on est loin de la poussière effectivement des vieux musées. Et on déguste aussi, il y a une très jolie cave, rien que le lieu de la cave qui rappelle
la
un
cave
petit peu
de Régis Deltil est extraordinaire.
Les bibliothèques de Piranès, c'est très
tout
très beau,
fait.
C'est un très beau lieu.
Il y a plus
lieu.
De 70 Sylvie pays Caz. Représentés.
C'est ça. Donc on n'est pas uniquement, on pourrait penser à l'extérieur comme ça quand on est un journaliste un peu perfide, que la Cité du Vin serait une espèce de pavillon amiral ou de vitrine pour faire la promotion des vins de Bordeaux qui certes marchent très bien à l'export, etc., mais qui peuvent, pâtir d'un petit déficit d'image. À Paris, on appelle ça le Bordeaux bashing, en bon français. C'est-à-dire l'idée qu'on considère, et notamment c'est ce petit discours, cette petite musique qu'on entend dans les restaurants qui comptent, auprès des chefs de la jeune génération, que les vins bordelais sont trop élitistes, trop spéculatifs, trop gourmands en intrants chimiques, même s'il y a des conditions climatiques qui expliquent évidemment que à Bordeaux, c'est peut-être un peu plus compliqué de faire du bio qu'ailleurs, même si le bio, je crois, progresse, mais n'est pas encore à la hauteur de la moyenne nationale. Des vins parfois un peu tanniques, un peu bodybuildés, un peu parkérisé, du nom de ce célèbre critique américain qui a un peu orienté ou standardisé le goût de certains Bordeaux. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Sylvie Caz?
Alors là, il y a beaucoup de sujets dans tout ce que vous avez
soit,
dit.
Malheureusement, on ne pourra pas faire toute l'émission là-dessus, mais une réaction.
Alors d'abord, le Bordeaux bashing, c'est fini.
Ah bon ?
Oui, c'est fini le Bordeaux bashing. Pourquoi ? Parce que Bordeaux a prouvé que, d'une part, il avait su réagir à tous ces problèmes, justement, qu'il y avait d'un point de vue biologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le CIVB, l'interprofession, a mis en place un système qui permet un système de management environnemental où il propose et petit à petit va imposer de se mettre aux normes environnementales. Si vous prenez par exemple l'appellation de Saint-Émilion, elle vient de voter aujourd'hui que tous les viticulteurs vont être obligés d'avoir un label haute qualité environnementale.
D'accord.
Donc si vous voulez, c'est
donc
fini.
Donc avancer au niveau écologique.
D'un point de vue écologique, on a considérablement avancé. Deuxièmement, on a parlé des prix. Évidemment, on se rappelle toujours des moments où ça augmente. Quand on a un très grand millésime, on oublie toujours les moments où ça descend dans les millésimes qui sont peut-être des millésimes plus faciles et plus agréables à déguster sur le moment. Et puis, vous aviez un autre sujet.
Est-ce que vous avez conscience, Sylvie Caz, pardon, hein, de réinsister un peu là-dessus, mais évidemment, Paris n'est pas le centre du monde. Je me réfère à cette ville dont je suis pas originaire, mais que je connais bien professionnellement. Les grands restaurants qui comptent, ceux qui font parler d'eux médiatiquement.
Première ville de consommation de vin. Voilà.
Première ville de consommation de vin, vous avez raison Antoine Gerbel. Disons que le Bordeaux est un peu réduit à la portion congrue sur les cartes des vins. C'est une réalité, au détriment d'autres vignobles de France, le Jura, la Savoie. Alors ils partent de loin évidemment, et notamment c'est pas les mêmes volumes. Mais en termes d'image, en termes d'émotion dans le verre, ils se taillent une réputation très importante. Vous avez conscience de ça ou pas ?
Oui, mais je pense que c'est tout à fait normal. Pendant très longtemps, le Bordeaux et la Bourgogne ont dominé les cartes de vin. Aujourd'hui, que toutes les appellations de France qui ont elles-mêmes progressé de façon considérable soient présentes sur toutes les cartes de vin à Paris, par exemple, c'est normal et tant mieux. De toute façon, il y a toujours une place pour chacune des régions de France. Et Bordeaux a sa place à jouer. Aujourd'hui, il y a une diversité des vins, une qualité qui a augmenté, qui augmente sans cesse et de façon très, très régulière. Et je pense qu'aujourd'hui, franchement, le Bordeaux bashing, c'est fini. Il y a eu aussi, moi j'arrive des États-Unis, il y a eu effectivement un Bordeaux bashing à une certaine époque. L'année dernière, le Wine Spectator a fait sa une avec la Cité du Vin en disant Bordeaux reborn.
Comme quoi la Cité du Vin sert à quelque chose aussi.
Et tout d'un coup, il y a eu tout un tas d'articles, etc. Et on revoit des Bordeaux sur toutes les cartes de restaurants à New York, c'est formidable.
On s'en réjouit et c'est tant mieux.
À Paris
petit
aussi.
Exercice de dégustation. On a versé dans le verre d'Antoine Gerbel, notre chroniqueur vin. Un vin, on peut donner comme indice qu'il est rouge. Je crois que vous y êtes pour quelque chose, Sylvie Caz. Sans filet, sans avoir préparé sa chronique. Antoine Gerbel nous en dit un mot. Il s'agit de...
Château Chauvin.
Voilà, le vin dont vous présidez, qui est votre propriété, en fait, depuis 2014, que vous avez repris et que vous avez fait évoluer, justement, avec cette idée de le pousser vers un peu plus de qualité. Antoine Gerbel.
Oui, alors, j'ai un tropisme particulier pour Saint-Émilion. Pour moi, c'est un très grand terroir un peu méconnu, le nom un peu divulgué. Surtout, il y a des grands crus classés premiers dans tous les sens. C'est très difficile à comprendre. Chauvin, c'est un territoire assez unique, plutôt de des compositions très fines, parce que c'est ça qu'on va chercher dans Saint-Émilion, c'est de la finesse, des notes aussi épicées, des tanins très doux, un côté voluptueux qui se laisse avoir. Là, c'est le 2009 de Chauvin, donc il n'a pas été fait par l'équipe de Sylvie Caz, mais les anciens propriétaires. Il faut savoir que c'est une propriété qui est dirigée par des femmes depuis très longtemps. Donc je pense que c'était aussi le penchant de Sylvie de retrouver, de continuer cette histoire de femme dans un vignoble, on va dire, un milieu viticole très très masculin. Le château Chauvin a cette particularité d'évoluer assez rapidement, c'est-à-dire que c'est pas un Bordeaux qu'on est forcé d'attendre 10 ans. Il n'y a jamais de dureté dans ce vin, il y a beaucoup d'élégance. Moi, j'adore cette période, fin de l'automne, ouvrir ces vins. Ça, c'est un 2009, très beau millésime, plutôt chaleureux. Et on va le goûter, le public va pouvoir le goûter.
Il y a même des verres qui circulent.
Quelques bouteilles de vin, et donc vous allez pouvoir découvrir cette douceur, cette suavité typique de Chauvin.
Quelqu'un veut le goûter ? Ah, on nous dit que Sylvie Caz n'en a pas porter assez, c'est ça ? Non, je plaisante. Écoutez, si vous avez une réaction, n'hésitez pas. Et Antoine Gerbel va nous prouver justement que le Bordeaux bashing s'essouffle peut-être un petit peu.
Je voudrais revenir juste sur le sujet que vous avez évoqué tout à l'heure, sur le fait que les vins sont de plus en plus bodybuildés, etc. Ça, c'est fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie tendance à revenir à des vins qui ont beaucoup plus de fraîcheur, beaucoup plus finesse, beaucoup plus d'élégance, et en particulier à Saint-Émilion d'ailleurs.
En gros, des vins qui montrent un peu moins leurs muscles et qui sont un peu plus dans la sensibilité et la délicatesse.
Absolument.
Et bien écoutez, très bien.
Et dans l'élégance surtout.
Et on en a la preuve de cette élégance dans nos verres avec votre château Chauvin. Peut-être que Antoine Gerbel va nous apporter d'autres preuves liquides de ce sursaut viticole à Bordeaux.
Alors oui, on va parler d'un autre vin de Saint-Émilion, mais je tenais à dire quelque chose aussi. Le problème du Bordeaux bashing, c'est aussi que partout en France, on identifie des hommes qui sont liés directement avec leurs terres. Ce n'est pas l'histoire de Bordeaux. Bordeaux, ce sont des propriétaires, des grandes propriétés qui confient le travail à des gens très compétents, des chefs de culture, des maîtres de chai. Et c'est aussi ça un peu le petit décalage qu'il peut y avoir aujourd'hui dans ce ressenti du consommateur qui veut avoir un lien un peu plus direct avec les producteurs. Donc Bordeaux doit aussi s'identifier un petit peu plus. Et puis il y a ces fameux œnologues consultants qu'on voit partout, qui sont fameux, mais qui déconnectent aussi le consommateur de ce qui est véritablement le domaine. Quand on les voit parader à New York, à Tokyo, et parler des châteaux au nom des propriétaires, je ne pense pas que ça sert non plus véritablement l'image des vins.
Les œnologues, Antoine, pour bien qu'on comprenne, ce sont en quelque sorte des consultants, des experts qui assure la fabrication du vin en chai.
Exactement, des hyper des gens très très compétents, des fois qu'on peut accuser d'uniformiser un peu le style des vins, mais même pas, je pense qu'ils sont assez honnêtes. Mais encore une fois, je n'ai pas envie, moi, pour ma part, de discuter avec un œnologue, j'ai envie de discuter avec un propriétaire, même s'il est pas sur le tracteur, même s'il est pas dans son chai, mais qui décide. Moi, je veux que ce soit quelqu'un qui décide pourquoi il y a de la culture bio ou pas bio, pourquoi il va mettre son vin dans telle barrique ou pas. Or, aujourd'hui, c'est un œnologue qui me raconte cette histoire. Ils sont charmants, ils sont très communicants, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut dépasser ce stade.
Ils sont un peu hors sol ?
Oui, ils racontent une histoire du très grand commerce bordelais qui fait sa puissance, mais qui aujourd'hui manque de racines.
Alors essayons de retourner justement... Ouh ! Alors revenons justement vers les racines. Peut-être avez-vous le contre-exemple, preuve que Bordeaux, c'est aussi, effectivement, comme le disait Sylvie Casse, grande diversité des vins. C'est ce qui fait la richesse de ce vignoble très impressionnant, avec des initiatives et des domaines tout à fait différents.
Alors, effectivement, Sylvie avance un peu prématurément que Bordeaux bashing, c'est fini. C'est en cours et surtout, ce ne sont pas des actions du comité interprofessionnel qui va changer. Ce sont des actions individuelles. Ce sont des gens qui vont prendre conscience que ce que j'ai évoqué rapidement doit évoluer. Et là, je vous amène un vin voisin. Voisin, puisqu'on est à Saint-Émilion, mais on est dans les plus mauvais terrains de Saint-Émilion. Je dis ça volontairement pour provoquer. On est à Libourne, donc vraiment les parties, les graves qui ont toujours fait des petits Saint-Émilion. Mais je l'ai amené parce que je trouve ce vin extraordinaire. On est chez Christophe Peuillot. Christophe Peuillot a 43 ans. Il a repris avec son oncle une propriété de 7 hectares et demi qui s'appelle La Fleur Garde-Rose.
Ça dit quelque chose dans le public ?
Pas très connu, pas très connu. La Fleur Garde-Rose, ça commence. Alors, je vais vous expliquer aussi comment il commence toujours à faire parler de lui, mais il a demandé à son oncle, j'ai envie de me lancer dans le bio. Il a beaucoup voyagé, il a aimé beaucoup aussi le Cabernet Franc, qui est pour moi aussi le grand cépage de Saint-Émilion, qui a été écrasé, entre guillemets, par le Merlot, qui est tellement facile, tellement gourmand et tellement lisible. Le Cabernet Franc est un peu plus frais, un peu plus délicat, et donc il a pris du Cabernet Franc, il est sorti du mode d'élevage type bordelais, la barrique classique, il a pris des grands foudres pour aller chercher moins de bois, pour aller chercher plus de fruits. Et là, il a été encore plus loin parce que vous avez la bouteille devant moi et regardez le bouchon, c'est un bouchon en verre.
Ah, donc, recouvert de cire.
Recouvert de cire. Ce n'est pas de la provocation, c'est encore une fois un garçon qui essaye d'exprimer quelque chose qui manque aujourd'hui, terriblement dans beaucoup de Bordeaux, c'est le fruit. C'est ce lien direct avec ce raisin parce que le vin, c'est d'abord un goût de raisin. Ce n'est pas un goût de chêne, ce n'est pas un goût d'œnologue, c'est d'abord un goût de raisin. Et il y a des magnifiques goûts de raisin à Bordeaux, c'est ça que je tiens à dire. C'est pour ça que moi je dis qu'il n'y a pas de Bordeaux bashing quand le vin est très bien fait. Donc là, vous avez sur le verre de gauche ce vin qui est très délicat, c'est 14. C'est beaucoup plus, fruité, direct, un petit peu végétal aussi. Il y a ce côté poivron très, très léger du Cabernet Franc, mais voilà, moi je rappelle que les grands Figeac, les grands Cheval Blanc qui sont les propriétés iconiques de Saint-Émilion historiquement étaient pleins de Cabernet Franc. Et dernière chose, je tiens à citer un domaine qui s'appelle Château Jean Fort.
Est-ce qu'on peut juste avoir une idée du budget ?
Alors ça, c'est relativement cher, c'est une toute petite production. C'est, lui, il vend ça aux professionnels, 25 euros, et on le trouve chez les cavistes aux alentours de 40 euros.
Vous nous rappelez la référence ?
Donc, Élébor, Saint-Emilion Grand Cru 2014 de Christophe Peuillot. Il a un premier vin à 10 euros, exactement fait dans le même principe, mais on va dire plus classique, mais en bio également.
Très bien, et vous aviez quelque chose à rajouter ?
Oui, simplement, c'est que ce très beau territoire de Saint-Émilion, je parlais de château Cheval Blanc, il y a la Dominique, et il y a un petit domaine au milieu qui s'appelle Jean Fort, et qui aujourd'hui est 100% en bio, et alors il est entouré de toutes les stars, et les stars viennent le voir, il travaille avec son personnel, avec des chevaux, tout ça, et là je suis en train de dire, ça met un peu la pression aux autres, c'est-à-dire qu'on peut s'appeler Cheval Blanc et vendre peut-être le Saint-Émilion le plus cher du monde, quand le voisin est intégralement en bio, on ne peut plus raconter qu'on ne peut pas le faire.
On va, merci beaucoup Antoine Gervel pour ce coup de cœur enflammé. On va boucler cette page 20, mais avec une petite réaction de chacun. Sylvie Casse, vraiment rapidement, parce qu'on est un peu pris par
oui,
le temps.
Non, je voulais juste dire qu'aujourd'hui, le Cabernet Franc mûrit beaucoup mieux qu'autrefois. D'abord parce qu'on sait mieux le faire mûrir.
Oui.
On le protège, etc. On le fait mûrir en enlevant des feuilles, etc. Et puis aussi parce qu'on a des très belles années depuis quelques temps et donc il mûrit mieux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut ajouter, d'ailleurs tout à Saint-Émilion, la plupart des producteurs, quand ils replantent, replantent un peu plus de Cabernet Franc aujourd'hui qu'autrefois.
Très bien, merci beaucoup. Vive le Cabernet Franc. Tanguy Lavial, vous le connaissiez, cet Élébor, cette cuvée Élébor ?
Alors, cette cuvée-là, j'ai eu l'occasion de la déguster directement avec le producteur. On travaille pas cette cuvée-là parce qu'on est caviste également. On est restaurant, mais on est également caviste. Donc on est amené à déguster beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et on travaille avec lui sur ses autres cuvées.
Ah très bien, donc ça vous dit évidemment quelque chose. Et c'est même servi sur certains de vos plats.
Ouais, on sert ça, on peut servir ça au verre. Ou...
Alors je tiens à signaler que voilà, encore un Bordeaux que j'ai trouvé sur la cave de Guy Savoie. Car très classique, je vais parler Paris, Guy-Savoie, l'Arpège, à la Pinsa, wow. Et Septime. Donc voilà typiquement le Bordeaux aujourd'hui
Paris 11e.
Qui retrouve sur tous les terrains, du côté des naturistes et des bio, comme des grands classiques, c'est un vin qui plaît. C'est ça que je voulais dire simplement.
Eh bien, c'est absolument parfait, merci beaucoup. Dans un instant, on va retrouver Marie-Luce Ribaud, notamment une autre recette de Tanguy Lavial. Et Marie-Luce qui va nous prouver que la jeunesse est aux commandes dans la gastronomie bordelaise avec de sacrés coups de cœur qu'on va tout simplement engloutir juste après Amadou et Mariam avec Amadou Bagayoko. Bye. Est-ce que Bordeaux a faim ? Nous sommes en direct de Bordeaux pour une émission consacrée au réveil gastronomique et œnologique de Bordeaux. Vous êtes bien sur les ondes de France Inter. On a fait circuler dans le public des petites assiettes, une autre recette de notre chef Tanguy Lavial. Là aussi, on la joue un petit peu à l'aveugle. Est-ce que quelqu'un saurait identifier cet accord ? Monsieur, vous vous appelez ?
Bonjour, je m'appelle Thierry.
Bonjour Thierry. Alors, verdict ?
Alors, c'est difficile de l'identifier. D'abord, je voudrais dire que c'était délicieux.
C'est déjà pas mal.
Alors, j'ai cru deviner un tartare.
Ouais.
Alors la première impression, c'est que j'ai visité entre du thon et du bœuf. J'opterais plutôt pour du bœuf, mais un bœuf peut-être un petit peu particulier.
Ah, c'est intéressant ce que vous dites. S'il y a une petite confusion entre bœuf et thon, c'est qu'il y a une raison précise justement. Un petit accord comme ça, bœuf avec autre chose.
Alors, un peu local. Oui, alors peut-être un bœuf maturé. En tout cas, il y avait beaucoup de mâches.
Autre chose que du bœuf.
Très agréable. Alors, un petit twist. Peut-être qu'il y avait un agrume ou.
Non. Quelqu'un a une idée?
Quelqu'un me montre, mais j'arrive pas à voir d'ici. Une huître, peut-être?
Bravo! Accord terre-mer, turf and surf, diraient nos amis anglais. Accord terre-mer, effectivement, bœuf et huître.
Ouais, un classique, bœuf et huître. Nous, on fait un tartare avec moitié-moitié bœuf mariné au sel et bœuf cru.
D'accord.
On rajoute des huîtres, pas mal de condiments aussi. Et puis, on a associé avec une émulsion de châtaigne. Et je tiens à dire que tout vient de la région.
C'est ça qui est formidable. Alors, votre bœuf, il est...
Bazas.
Bazas, formidable. Ouais. Très belle race ancienne de bœuf qui est d'ailleurs revalorisée à Bordeaux. L'huître, c'est laquelle ?
Alors, c'est l'huître naturelle du bassin Arcachon.
Oui. Ça dit quelque chose à Marie-Luce. Et juste la châtaigne aussi est locale ?
La châtaigne, ça vient des Graves.
Et ben voilà, c'est magnifique. En voilà une très belle recette qui est locale et qui est pleine de tempérament et de sentiments. Merci beaucoup Tanguy Lavial. Je me tourne vers Marie-Luce Ribaud car évidemment, vous nous avez apporté sur un plateau une huître superbe dont vous voulez dire un mot. Et déjà, on peut dire qu'elle est naturelle.
Voilà. Donc, c'est une huître qui est donc faite sur le bassin d'Arcachon. Il y a encore quelques petits producteurs rares qui font de l'huître naturelle, c'est-à-dire pas de l'huître triploïde.
Oui.
Voilà. Donc, l'huître triploïde, c'est l'huître qui s'est développée notamment sur le bassin d'Arcachon. Pourquoi ? Pour pouvoir continuer à la manger pendant les mois qui ne sont pas en R.
On peut dire en un mot que l'huître triploïde, hein, pour juste faire une petite précision, c'est des huîtres qui possèdent trois jeux de chromosomes, contrairement aux diploïdes qui n'en ont que deux, et ces trois jeux de chromosomes, elle est donc un peu modifiée, cette huître, faut bien le reconnaître, eh bien, elle empêche l'huître de se reproduire.
Elle devient stérile.
Et l'énergie que l'huître ne met pas à se reproduire, elle la met à grossir plus vite. Donc là, c'est évidemment une affaire de rentabilité et de productivité. Et c'est aussi que comme l'huître est stérile,
voilà,
elle n'est pas laiteuse à tous les moments de l'année. Elle peut être donc consommée tout le temps.
Et au moment où on en discute, notamment sur le bassin d'Arcachon avec les nombreux touristes, elle n'est pas laiteuse. Sauf que, il y a notamment deux jeunes, un frère et une sœur formidables qui s'appellent Florian et Christelle Gossem, qui font une huître qui s'appelle Fleur d'écume sur le bassin d'Arcachon.
Oui.
Et qui défendent de bec et ongles l'huître naturelle pour dire que vraiment on peut la manger. Ils arrivent même grâce aux différents parcs à huîtres qu'ils ont sur le bassin, et notamment un qui est à côté des cabanes de Chanquet, juste à côté, à faire une huître qui, malgré tout, sur leur stand de dégustation, même en mai, même en juin, même en juillet, même en août, elle reste verte, charnue, délicieuse. Et ces jeunes-là, ils ont 31-35 ans, c'est un frère et une sœur qui ont fait des études formidables, ils sont ingénieurs agronomes, ils ont réfléchi, ils se sont renseignés sur tout ce qu'il y avait, et ils ont décidé de reprendre la production familiale qui était au grand-père et à l'oncle pour continuer. Et ils ne prétendent pas que l'huître triploïde est meilleure ou moins bonne que la leur, ils disent seulement que ce qu'ils veulent faire, ils veulent le faire dans la tradition. Et qu'ils pensent que c'est comme ça que le bassin va continuer à pouvoir évoluer, sachant quand même que cette huître naturelle a un avantage, c'est qu'elle est beaucoup plus résistante aux bactéries.
Très bien. Vous vous rappelez le nom de cet ostréiculteur qui est tout jeune, un trentenaire ?
Florian Gossem, voilà. Et Christelle, les
Florian
deux.
Florian Gossem. Ce qu'il y a d'assez émouvant, autant le dire tout net à Bordeaux, c'est que ce sursaut qualitatif de la gastronomie, du terroir, il est porté par une vraie jeunesse trentenaire. Et on en a plein d'exemples. On va pas pouvoir malheureusement tous les citer, mais il y en a quelques-uns.
Oui.
Et notamment, Elvira Masson en a un entre les mains.
Entre les mains, je l'ai rencontré en effet tout récemment, hier.
Alors, on est à Bordeaux, et moi, je vais vous parler de bière. Je sais, c'est un peu de la provoque, parce qu'on trouve de tout désormais à Bordeaux. C'est ce que vous disiez un petit peu tous, les uns les autres. On trouve même un brewpub. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un brewpub ?
Un brewpub. Ah, ça vous dit quelque chose, madame ? Vous savez ce que c'est ? On lui donne un petit micro ?
En québécois, ça veut dire quelque chose, brewpub.
Brewpub.
C'est même une tradition locale.
C'est un bar-brasserie.
Bravo.
Un bar qui brasse sa propre bière.
Voilà, to brew en anglais.
To brew, ça vient de ça. C'est un peu un ovni, ça s'appelle Au Nouveau Monde, on est rue des Boucheries. C'est une adresse qui a ouvert il y a 2 ans,
oui.
Qui est pilotée par un Québécois, qui s'appelle Étienne Charest. Alors je vous en parle non seulement parce que le Québec est l'invité d'honneur de cette édition de Bordeaux So Good, non seulement parce que l'huître est l'un des produits phares de cette édition, or précisément l'huître, ou la coquille d'huître, entre dans la composition d'une des bières proposées par Étienne au Nouveau Monde, et qu'il a fait goûter d'ailleurs ici, laquelle coquille d'huître donne un petit goût iodé à sa bière stout, très intéressante, ce qui prouve aussi que ces bières comme ça, ces craft beer, comme on les appelle, ces bières artisanales de microbrasserie, on est quelque part entre la cuisine et le vin. C'est de l'assemblage, mais avec une liberté assez grande.
Une espèce de gastronomie liquide.
C'est vraiment ça. Étienne a ouvert il y a 2 ans, après avoir beaucoup bataillé, 15 banques, 5 versions de son business plan, parce qu'on lui disait que ce serait quand même pas rentable de produire sa propre bière. Ce serait quand même tellement plus simple d'aller s'approvisionner chez un gros faiseur.
Ouais.
Il a tenu le coup. Il a eu du mal aussi à imposer à ses banques qu'il voulait passer à l'électricité renouvelable. Que oui, ça coûtait plus cher, mais qu'il fallait quand même essayer de faire un petit peu du sens. Il est le premier à avoir créé, c'est le premier pub en France, peut-être le seul à ce jour, ça il n'a pas su me dire, à être certifié bio. Donc 100% bio, vous
100%
imaginez
bio, ah oui.
Les embûches administratives, les difficultés qu'il peut rencontrer au quotidien. Son houblon est bio, le pain bun qui sert à faire ses burgers est bio et aussi sans lactose, parce qu'il est très très branché vegan. Tout est pratiquement local, sauf, je vous disais, le houblon, qui viendra sans doute bientôt de France, mais c'est pas encore le cas, et son
malt,
qui vient d'Allemagne, parce qu'il a encore un peu de mal à trouver
un
malt très qualitatif, ces malts de spécialité.
Il peut pas faire autrement, et beaucoup de jeunes brasseurs sont dans cette situation.
Et comme il est québécois, il se paye quand même le luxe de servir à Bordeaux de la poutine.
Est-ce que vous savez ce que c'est, la poutine ?
Je pense que madame,
une espèce de junk food redoutable qu'on peut avaler à Montréal, évidemment. Alors bon, en termes de calories, on va passer sur le profil.
Disons que c'est un plat d'hiver, on va dire.
Oui, on peut dire ça. Mais il fait très beau à Bordeaux aujourd'hui, on n'en a pas forcément besoin, mais un peu froid quand même.
On n'a pas besoin de poutine, mais la sienne est vraiment très très bonne. La preuve que peut-être que c'est de la junk food, mais si on décide que cette junk food va être artisanale, elle peut être délicieuse. Le principe, c'est ce plat qu'on mange donc dans la rue, avec de la pomme de terre, du fromage fondu.
Oula.
Souvent au Québec, dans la rue, c'est du cheddar industriel, ce fameux fromage qui fait squeak, squeak. Quand on le mange.
C'est
et c'est arrosé généreusement de gravy, enfin de fausse gravy un peu industrielle également.
De quoi s'agit-il, la gravy ?
C'est une sauce brune avec un fond de bœuf, fond de veau. Et la sienne, eh bien, elle est faite avec un fond de bœuf maison. Le fromage, c'est de la tomme fraîche locale.
Pratiquement
tout est local, qui vient de chez un petit producteur en Gironde. Et sa sauce est déglacée à la bière, évidemment.
Wow.
Il propose même une poutine bordelaise avec une sauce vin rouge.
Extraordinaire.
Les bières sont brassées au sous-sol. Il y a 7 ou 8 bières. Moi, j'ai goûté une rye IPA, petit jeu de mots avec IPA, qui sont ces India Pale Ale, avec du malt clair, qui sont très amers, avec une belle amertume florale épicée. Je me suis absolument régalée.
Parce que le rye, c'est du
seigle. Là, c'est du seigle. C'est une particularité. C'était très, très longue en bouche. Le Québec, c'est 8 millions d'habitants et 500 microbrasseries.
Mm-hmm.
La France, c'est 900 microbrasseries. Donc, on est loin du Québec. Mais le phénomène, le nombre a doublé en France en 5 ans. Mm. Et ce qui mérite d'être signalé, c'est qu'une brasserie artisanale sur 10 en France est créée par une femme.
Bravo.
On est contente, Sylvie, non ?
Les femmes au pouvoir, en plus de la jeunesse.
Ils aiment les bonnes choses.
Vous nous rappelez cette adresse qu'on a vraiment envie d'aller tester. Quelqu'un la connaissait ou pas dans le public ? Oui, et vous partagez cet enthousiasme ? Voilà, il y a les pouces qui se lèvent.
Au Nouveau Monde, rue des Boucheries.
Vous connaissiez ou pas Tanguy Lavial ?
Non, pas du tout.
Non, mais j'aurais,
ça me rend un peu triste. Ça me rend un peu triste, mais en même temps très excité d'y aller.
Ben voilà.
Quand un chef très talentueux dans sa propre ville n'a pas entendu parler d'une superbe adresse, c'est plutôt bon signe sur le nombre de bonnes adresses qu'il y a désormais à Bordeaux. On finit par quelques coups de cœur, c'était promis, de Marie-Luce Ribaud. On a parlé évidemment de cette huître naturelle de Fabien Gossem dans le bassin... Dans le bassin d'Arcachon.
Un vrai nuage d'eau de mer en bouche. C'est
complètement
somptueux.
Ouais.
Vraiment, ça fait longtemps que je n'ai pas eu cette émotion avec une huître du bassin.
Antoine Gerbel, quand même. Et quel vin sur cette huître ? Allez, on se creuse un peu.
Un Sauvignon, très délicat.
Très bien.
Pas trop mûr et pas trop boisé.
Parfait, merci beaucoup.
C'est
œcuménique,
là, hein, terrible.
J'aperçois, Marie-Luce Ribaud, un jambon blanc assez exceptionnel. On a eu l'occasion de le goûter.
Mm.
Il est assez local, régional.
Mm.
Vous nous en dites un mot.
Oui, parce que dans la quête de ces bons produits, je voudrais dire une chose, c'est... J'ai rencontré que des jeunes, des affaires de transmission et des jeunes. Et là, nous avons Jean-Baptiste Gahuzère qui reprend, il y a quelques années, tout récent, la maison Dubernet à Saint-Sevé dans les Landes, 1864.
Ah oui, donc c'est vraiment une maison, une institution historique.
Une institution historique. Et Jean-Baptiste, donc, fait des salaisons, fait du foie gras, puisque c'est quand même là aussi la vocation de cette maison. Et d'ailleurs, il travaille actuellement avec Thierry Marx. Et il entend un jour un rapport de l'OMS qui parle de ces produits et des sels nitratés dans le jambon et dans les grosso modo dans toute la charcuterie
qui devient soupçonné d'être cancérogène, hein.
Ouais, cancérogène et aussi producteur de botulisme, de choses comme ça qui ne sont pas très très agréables. Jean-Baptiste, il a donc testé une tonne de jambon pour arriver à faire une décoction de feuilles de fanes de carottes et de blettes. Avec ça, il a concentré un goût formidable et il fait son jambon avec ça, qui permet de garder...
Avec un conservateur naturel, en quelque sorte.
Un conservateur naturel qui permet de garder le goût et même, de le sublimer, parce que ce jambon, vous le goûtez, il a effectivement, comme me disait Elvira, un fort goût de bouillon, oui. Et qui permet d'avoir une saveur qui est très très profonde en bouche, il est vraiment délicieux.
Souvent le problème des jambons, quand ils sont trop roses, c'est dans 99% des cas...
Ils ont été piqués
au sel nitrité qui commence à poser un vrai problème sanitaire. Eh bien, il y a des artisans qui trouvent des solutions naturelles pour essayer de faire en sorte que ces jambons restent roses sans nitrate. Alors que s'il n'y avait pas de sel nitrité pour l'instant, effectivement, il deviendrait gris à cause de l'oxydation. Vous en pensez quoi, Tanguy Lavial ?
Bah, tout ça, c'est bon signe, on va dans le bon sens. Et c'est ce qu'on ressent actuellement dans la région et particulièrement très proche.
Vous nous avez préparé quoi en dessert ?
Mousse au chocolat noisette, donc du gros classique avec une émulsion de galéodésine, qui est une courge qui vient de la région.
Elle a pas mal figure, hein. Elle a des pustules partout.
C'est pour ça qu'on la voit de moins en moins, malheureusement.
Comment vous l'appelez ?
Le galéodésine.
Galéodésine. Galeux, effectivement, elle a la gale, elle a des pustules un peu partout. Voilà.
Et Zine, c'est une petite commune dans la cuve de Bordeaux.
La recette est sur le site internet de l'émission, franceinter.fr, à la page On va déguster. Les recettes, d'ailleurs, avec cette courge en dessert, circulent dans les travées du Palais de la Bourse. Un tout petit mot, mais vraiment rapidement, parce que malheureusement, on doit conclure. C'est un dessert extraordinaire.
Oui, dessert extraordinaire, totalement addictif. C'est le Puy d'Amour. Il y a plein de gens qui le connaissent ici. C'est à Capcieux, au départ le siège, ça a été repris par encore deux jeunes, 31 et 35 ans, et ils ont conquis Bordeaux, et bientôt ils vont conquérir sans doute Paris, voilà.
Et c'est de la crème chibousse
dans une petite tartelette. C'est une crème chibousse dans une pâte à choux.
Très bien.
Et à Bordeaux. Tamponnée de caramel.
À Bordeaux, il faut les défendre, il faut les remonter. Il y a du Sauterne, une jeune génération à Sauterne qui fait des vins très délicats.
Il est reparti sur le vin, Antoine Germel, en sucré.
Non, mais... Et qui sont justement de moins en moins sucrés et très délicats.
Merci beaucoup, Antoine.
Ça irait bien avec la mousse.
Le festival So Good, c'est jusqu'à ce soir à Bordeaux dans toute la ville. À midi démarre d'ailleurs un brunch fermier avec les agriculteurs et les artisans de la région. À 15h, il y aura aussi au Palais de la Bourse un cours de cuisine. Merci à tous les trois, Tanguy Lavial, Garo Papi, Sylvie Caz, pour la Cité du Vin, très beau projet bordelais. Et Château Chauvin, votre propriété à Saint-Émilion. Marie-Luce Ribaud a signalé la parution d'un hors-série spécial fête du Sud-Ouest. Voilà, et la semaine prochaine, à l'occasion du Festival Radio France Fête le Livre, on va déguster Dresse-le-Couvert, dimanche, en direct et en public depuis le Studio 104, avec des places à réserver à maisondelaradio.fr. Et on dédicacera d'ailleurs, pour le public de la Maison de la Radio, notre livre la semaine prochaine, on va déguster la France. Dans un instant, Ali Badou reçoit Gérard Collomb dans Questions politiques sur France Inter. Merci encore, cher public. Et vive Bordeaux. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.